Radio Kapi. Oh, Kapi.
Le journal Jean-Désiré Kanyama.
Au sommaire de ce journal, 17 personnes prises en otage vendredi dernier à Bambou en Ituri par des hommes armés identifiés comme des éléments de la Codeco seraient exécutées hier samedi à Petsi par leurs ravisseurs. Selon plusieurs sources concordantes dans la région, les victimes sont des passagers qui se trouvaient dans quatre Gorekil en partance vers Mongualou. Lancement officiel hier samedi à Kasangoulou, au Congo central, des travaux du programme de développement local des 145 territoires sous la gestion de la cellule d'exécution des financements des États fragiles. Cette province attend 174 ouvrages dont les écoles primaires, les centres de santé et les bâtiments administratifs. L'invité de ce journal est le chef de bureau du programme alimentaire mondial dans le Grand Kassai. Alexandre Rohonodi parle des réalisations, des contraintes et perspectives d'avenir du PAM au Kassai oriental pour l'année 2023. Mesdames, Messieurs, bonjour. En Ituri, 17 personnes prises en otage vendredi dernier à Bambou, dans le territoire de Djougou, par des hommes armés identifiés par la population comme des présumés éléments de la Codeco, seraient exécutés hier samedi à Petsi par les ravisseurs. Selon plusieurs sources concordantes dans la région, les victimes sont des passagers qui se trouvaient dans quatre gros véhicules en partance vers Mongualou. L'administrateur du territoire de Djougou dit avoir appris cette nouvelle comme tout le monde, mais se réserve à ce stade de la confirmer ou l'infirmer avant la fin des enquêtes. Des détails avec Marcel Kizabiamungu.
D'après plusieurs sources concordantes jointes dans la région des Bambou, ces passagers appartenant vers la commune rurale de Mongualou seraient tués à Petsi, où ils ont été ramenés par les ravisseurs que la population identifie comme des présumés assaillants de la Codeco. Des sources sécuritaires qui les confirment disent qu'il s'agit d'une représaille de ces malfrats après avoir appris la tuerie des trois de l'air dans une embuscade tendue la nuit des vendredis à samedi par des éléments du groupe armé Zaïre à Agnolo, Tchoulou, dans les secteurs de Banyalikilo. Des corps des otages tués giseraient encore à même le sol à Petsi, une localité sous contrôle total de la Codeco. Les porte-parole de la Codeco, Bassa Gerson, se réserve de tout commentaire sur ce sujet. L'administrateur du territoire de Djougou déplore que ces groupes armés sabotent davantage son acte d'engagement pour la paix. Le colonel Rebema Pepe dit attendre les rapports du chef de secteur de Walindou Djati avant de donner des précisions sur l'exécution ou pas de ces otages. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, dans le territoire de Beni, l'armée affirme avoir neutralisé une vingtaine de rebelles de l'ADF lors des opérations militaires dans le secteur des Rouenzori et une partie de la chefferie des Bachou. Des effets militaires et autres armes de guerre ont été également récupérés par les forces de l'ordre qui maintiennent la pression sur l'ennemi, caché le long de la rivière Zeloubé, Lusilubi. Marc Marofimbo pour des précisions.
Pour la première opération menée dans le secteur de Rwenzori, le long de la rivière Nzelu-Belusi-Lubi, depuis le vendredi dernier, les forces de la coalition FARDC-PDF affirment avoir neutralisé 20 rebelles de ZDF le long de cette rivière. Parmi les matériels récupérés, selon les deux porte-parole des opérations militaires dans la région, on peut citer 8 armes de guerre du type SMJ et AK-47, plus de 500 munitions, 7 panneaux solaires, 11 Corans, des tenues militaires de FRDC, des radios Motorola et des filets de pêche. Les deux porte-parole de la coalition FRDC-UPDF et des opérations militaires Sokola 1 précisent que l'ennemi a pris fuite vers la forêt Ngandu dans le parc national de Virunga. Ils rassurent toutefois l'opinion que les opérations conjointes vont se poursuivre sans interruption afin d'éradiquer la menace terroriste dans la sous-région. Une autre opération militaire est celle menée toujours ce week-end, mais par les seuls FRDC dans la localité de Vemba du secteur de Benimbao. Ici, l'armée affirme avoir neutralisé 4 autres rebelles. Il s'agit d'une opération de représailles contre ces rebelles, des ZDF qui ont tué 7 civils dans la nuit de jeudi à vendredi dernier, indique l'armée qui ajoute qu'elle est à la poursuite de ces rebelles qui ont aussi pris la direction du parc national de Virunga. Beni, Marc Marufimbo, Radio Okapi.
En bref, à Goma, une nouvelle fois, deux personnes ont été tuées hier samedi soir entre 19h30 et 20h locales par des hommes armés non identifiés. Sur l'avenue Bobiladawa au quartier Keshero, un notable de Masisi du nom de Munyamariba Emmanuel a été tué à son domicile, alors qu'au niveau du quartier Majengo, c'est un jeune d'environ 20 ans qui a été fusillé par deux hommes armés. Les autorités de base au niveau des quartiers confirment l'information sans fournir aucun détail sur l'identité des assaillants. Le Conseil des jeunes de Goma, qui plaide pour plus de mesures de sécurité dans la ville, dit avoir comptabilisé plus de 400 maisons cambriolées et des dizaines de personnes tuées dans la ville de Goma et ses environs depuis le début de cette année. Toujours au Nord Kivu, la ration alimentaire distribuée par les humanitaires aux déplacés de guerre dans certains sites se retrouve sur le marché pour la vente. Certains déplacés justifient cette situation par le fait que l'aide reçue ne couvre pas très souvent tous leurs besoins, d'où ils préfèrent vendre une partie pour varier leur repas qui, selon eux, est devenu non seulement monotone, mais aussi pour leur permettre de couvrir d'autres besoins. Une pratique devenue courante qui s'observe dans plusieurs sites des déplacés. TDT avec Denise Loukesso.
Les habitants de Goma viennent acheter, certains pour leur ménage et d'autres pour revendre. Cette nourriture se vend presque maintenant dans tous les marchés à Goma. Ils viennent dans des véhicules, des motos pour charger et partent revendre. Autour du site de Bouchagala, sur la route Saki, au ouest de la ville de Goma, c'est un carrefour qui s'est créé, tout comme vers les sites de Boulengo. De minibus, des motos, des charrettes chargées de cette ration prennent la direction de Goma ou Saki. C'est du business. Témoignage. Moi aussi, j'ai acheté un sac de 60 kg de riz à 60 000 francs congolais, un sac de petits pois à 10 000 francs congolais, de l'huile, des paquets de thé et du savon. Ils préfèrent revendre pour s'acheter une autre nourriture. Je l'ai fait dans le cadre de les aider puisqu'ils ne vont pas manger de la même nourriture tout un mois. Un déplacé venu de Karinga, vivant dans les sites de Boulengo, explique que c'est pour satisfaire d'autres besoins que les déplacés se livrent à cette pratique de vente. Tu ne vas pas manger tous les jours les mêmes repas avec peur d'attraper de la diarrhée. Nous revendons pour acheter d'autres nourritures afin de varier un peu notre repas. Les acheteurs viennent de Goma. C'est pour nous permettre de nous acheter soit de la farine de manioc ou de la braise pour faire de la cuisson. Plusieurs autres besoins restent encore à couvrir dans les sites. Goma, Denise Loukesso, Radio Kapi.
La province du Congo central attend 174 ouvrages, dont les écoles primaires, les centres de santé et les bâtiments administratifs du programme de développement local des 145 territoires sous la gestion de la cellule d'exécution de financement des États fragiles. Guy Bandou, gouverneur de cette province, appelle la population à s'approprier ce programme gouvernemental. Il a dit hier samedi, lors de la cérémonie de lancement officiel des travaux à Kasangulu. Paul Matendo, notre envoyé spécial, revient de Banzangungu. Suivez son reportage.
Pour le territoire de Mbanzangungu, le PDL 145T prévoit 22 ouvrages parmi lesquels les écoles primaires pour renforcer la réforme de la gratuité de l'enseignement des bases, indique la CFF. Guy Bandou, qui gère cette entité, explique que ce programme répond aux idératas de la population.
Que la population de Kasangulu s'approprie ce projet qui vient répondre aux désidératas longtemps soulevés par elle.
Bonaventure Moutonge, constructeur de ces ouvrages, soulève les contraintes auxquelles il fait face.
Ici, les contraintes, c'est que les approvisionnements sont difficiles parce que les travaux sont tellement énormes et les carrés qui sont ici ont les difficultés pour approvisionner les différents chantiers.
Pour la population bénéficiaire, ce programme, avec les centres de santé, va soulager la misère des habitants de Kasangulu.
Pour la santé de santé, nous sommes en tout cas à Salamakasi.
Merci de penser au centre de santé qu'on puisse les équiper convenablement afin de mieux prendre en charge les patients et les soulager, demande cette habitante de Kasangulu.
Et puis au Kasaï oriental, les pluies qui se sont abattues ces derniers jours en Bujimaï continuent à détruire les tissus écologiques de la ville. Plusieurs têtes de ravins se sont créées au risque de couper quelques quartiers. Certaines femmes ménagères demandent au gouvernement provincial de s'investir dans la lutte anti-érosive. Des explications avec Esther Ndalafina.
Au niveau du ravin Tchalamwana, au quartier Mikela, dans la commune de Dibindi, les têtes de ravin ont englouti quelques maisons résidentielles au cours des dernières pluies qui se sont abattues depuis bientôt 2 semaines. Certains propriétaires des parcelles menacées par les érosions passent la nuit à la belle étoile dans les parcelles voisines. Madame Kabedi sollicite l'implication du gouvernement.
Les ravins se sont créés, les maisons se sont écroulées, les parcelles englouties. Les gens ont quitté les lieux. Nous n'avons pas la possibilité de construire ailleurs, que le gouvernement s'implique.
La situation est similaire au quartier du Pumba dans la commune de la Kanchi, ainsi qu'au quartier Nkonga dans la commune de la Mouya. Madame Kabanga lance un cri d'alarme.
Le quartier du Pumba est coupé par les ravins. Sur la route des 20, de Kangoudia jusqu'au cimetière, aucun véhicule ne peut plus passer par là. De ce côté-là, il ne reste qu'une seule route praticable, celle de Kanyeya. Du côté de l'aéroport, nous sommes fatigués qu'on réhabilite cette route.
Le week-end dernier, le maire adjoint était descendu sur certains points de la ville pour sensibiliser la population aux travaux d'assainissement ainsi que des luttes anti-érosives. Esther Dalafina Mbujimaï, Radio Okapi.
La tuberculose est en hausse dans la province du Sud-Kivu. En 2022, l'on a dénombré plus de 10 000 cas, mais il est attendu une augmentation de 2 000 cas supplémentaires en 2023. La coordination provinciale de lutte contre la tuberculose conseille la population de procéder au diagnostic précoce et à toute personne qui tousse de se rendre dans un centre de santé le plus proche. Le traitement s'avère efficace pour les cas de tuberculose sensible, mais c'est l'inverse pour les cas de multirésistants. Docteur Freddy Birembano dresse un état des lieux de la tuberculose dans la province du Sud-Kivu. Il est au micro de Justine Tamwenge.
La situation de la tuberculose au Sud-Kivu se présente comme suit. En 2022, nous avons dépisté 10 400 cas de tuberculose sensible, 60 cas de tuberculose multirésistant. 13% étaient des enfants de moins de 15 ans. 8% c'était des personnes vivant avec le VIH qui avaient aussi la tuberculose comme maladie opportuniste. Par rapport à la prise en charge, pour ce qui est de la tuberculose sensible, on a pu guérir 96%, mais nous avons chuté pour ce qui est de la tuberculose qu'ont infecté VIH, où on a eu beaucoup de décès, et pour ce qui est de la tuberculose multirésistant, on a eu 65 qui étaient le succès thérapeutique. Mais pour l'année 2023, je peux vous dire déjà qu'il est attendu au moins 12 000 cas de tuberculose sensible et 102 cas de tuberculose multirésistant. Ça paraît énorme.
Le syndicat autonome de l'Office congolais de contrôle, SAT-OCC, plaide pour le renforcement de la paix sociale au sein de cette entreprise pour éviter la baisse de la production. C'est ce qu'a déclaré hier samedi à Kinshasa le secrétaire général de ce syndicat au cours de son assemblée générale ordinaire. Minga Shangalui appelle les membres du conseil d'administration ainsi que tous les agents de l'Office congolais de contrôle à privilégier la paix, la concorde et le travail pour un fonctionnement harmonieux de cette entreprise. Il est au micro de Radio Okapi.
Le message, c'est celui de paix. Le SAT-OCC, c'est un syndicat qui œuvre au sein de l'OCC. S'il n'y a pas de paix, l'OCC ne va pas marcher. Donc la paix, c'est le fondement de tout développement. Alors, nous constatons des fois qu'il y a des dirigeants, malgré nommés par ordonnance, qui amènent des troubles. Et c'est pour cela que nous appelons à l'attention de tous les travailleurs de l'OCC, non seulement les membres de mon syndicat, et le conseil d'administration, à ce que tout le monde prenne conscience, à ce que la paix revienne, qu'il n'y ait pas de désordre. Qu'on mette l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Nous souhaitons que tout le monde travaille.
Est-ce que cette situation-là va faire chuter la production de l'entreprise?
Bien sûr que oui. Et quand on n'a pas mis l'homme à la place qu'il faut, et que par sentiment on prend des connaissances de famille, vous mettez là où il ne faut pas mettre, vous pensez que le travail sera bien rendu? Non, on va connaître des échecs, on va connaître la sous-production. Je veux dire que le conseil d'administration est en train de bloquer le DG pour qu'on avance. Voilà.
Actualité internationale.
Au Tchad, le président de la transition, Mahamat Idriss Déby, a signé hier samedi 25 mars une garde présidentielle en faveur de 380 des plus de 400 rebelles du FACT, le Front pour l'Alternance et la Concorde, condamné mardi dernier. Les rebelles avaient été condamnés à la prison à vie pour actes de terrorisme, atteinte à la sûreté nationale et atteinte à la vie du chef de l'État. Le Burkina Faso monte d'un cran dans sa riposte face à la menace terroriste. Sur demande du président de la transition, le Conseil constitutionnel a publié vendredi dernier un avis portant ordre de mobilisation générale et de mise en garde. Dans le même temps, le Conseil des ministres a décidé de déclarer l'état d'urgence dans 8 régions du pays à partir du 30 mars prochain.
L'invité.
L'invité de ce journal est le chef de bureau du programme alimentaire mondial dans les Grands Kassai. Alexandre Réonodi parle des réalisations, des contraintes ainsi que des perspectives d'avenir du PAM au Kassai Oriental pour l'année 2023. Il s'entretient avec Esther Ndalafina.
Bonjour, monsieur Alexandre Réonodi. PAM a organisé la semaine dernière deux ateliers sur ses réalisations dans la province du Kassai Oriental. Quelles sont ces réalisations?
Ok, merci madame. C'est d'abord un atelier d'information et de sensibilisation, de présentation de nos activités menées en 2022 dans le Kassai Oriental, ainsi que les perspectives pour 2023. C'est pour partager avec les parties prenantes pour qu'ils puissent appréhender d'abord ce que nous faisons. Et cela s'est résumé avec un apport de $2,683,572 et d'environ 6182 metric tonnes de vivres et d'intrants nutritionnels qui ont été, n'est-ce pas, apportés à plus de 388,600 personnes. Il y a eu également un appui financier qui est dans le cadre, n'est-ce pas, d'un appui institutionnel pour les activités d'évaluation et la formation également des jeunes dans le cadre des enquêtes que nous menons dans la zone.
Eu égard à ces réalisations, pouvons-nous conclure que le problème de l'insécurité alimentaire a été résolu?
Madame, l'insécurité alimentaire ne peut pas être résolue comme ça. C'est la combinaison de plusieurs facteurs, donc les conflits, la hausse des prix des denrées, ainsi que les coûts de transport, de même que les répercussions persistantes des pandémies. Mais à notre échelle, il faut savoir qu'un petit effort peut être fait pour renforcer les moyens de subsistance, les questions d'accès à une alimentation efficace, saine et nutritive. Et il faut aussi un plan d'intervention, n'est-ce pas, et d'action efficace, durable, pour faire face aux crises alimentaires et agricoles. C'est en cela qu'on peut lutter contre l'insécurité alimentaire. D'autres volets qui concernent la santé, l'eau, l'assainissement également font partie des points qui doivent être pris en compte conjointement et ensemble pour pouvoir lutter contre l'insécurité alimentaire.
Quels sont les défis majeurs auxquels PAM est confronté?
Les défis logistiques. Cela se traduit par la dégradation des voies de communication, des routes qui rendent déjà difficiles les approvisionnements. Parce qu'en termes logistiques, nous voyons également le transport de nos intrants nutritionnels, le transport de nos vivres à partir des sources d'approvisionnement jusqu'aux derniers bénéficiaires. Et avec l'état actuel des routes, il n'est pas très facile de pouvoir transporter rapidement du point de départ jusqu'au niveau de bénéficiaire. Et comme vous le savez, en fonction, n'est-ce pas, de les deux corridors de Lubumbashi et de Kinshasa, c'est une distance vraiment très longue, de 950 à 1200 km. Et parfois, les transporteurs peuvent passer jusqu'à 2 à 3 mois sur ces routes avant que les vivres n'arrivent. L'autre défi reste également les questions de détournement et de malversation autour, surtout de ces intrants nutritionnels qui n'arrivent pas vraiment aux vrais bénéficiaires. Et sur ce point, nous voudrons déjà dire merci et féliciter le gouvernement provincial pour tous les efforts qui ont été consentis, parce que des actions très dures ont été également prises pour barrer la route à cette mauvaise pratique-là.
Oui, monsieur Alexandre, que pensez-vous par rapport à ceux qui disent que le PAM achète de grandes quantités de denrées alimentaires sur le marché local en provoquant la surenchère et la carence?
Merci madame, c'est une situation qui s'est passée dans le Kassai central, mais ce n'était qu'une fausse allégation qui a été très rapidement corrigée grâce à l'appui des autorités locales. Et d'ailleurs, la production locale ne permet même pas, n'est-ce pas, au PAM de pouvoir faire les achats pour répondre à ces opérations sur le terrain.
Et quelles sont les perspectives d'avenir pour 2023 pour le Kassai oriental?
En 2023, il y a un projet conjoint PAM-FAO dans sa deuxième phase à Kabea Kamwanga et à Tilenge dans le cadre du relèvement des ménages vulnérables ainsi que les moyens de subsistance. C'est un projet financé par la Banque mondiale. Et il y a aussi un projet d'extension du programme d'alimentation scolaire dans le Kassai oriental. C'est financé par l'Union européenne et c'est un projet conjoint PAM-UNICEF et gouvernement provincial à travers le ministère de l'Éducation.
Monsieur Alexandre Réonodi, merci.
Merci madame et je crois au plaisir de nous revoir très prochainement.
Alexandre Réonodi était notre invité, il est le chef de bureau du programme alimentaire mondial dans le Grand Kassai. Et c'est la fin de ce journal qui a été coordonné par Pierrot Elameji et supervisé par Alain Irung. Merci de continuer à les réécouter sur toutes les plateformes digitales de Radio Okapi.